Salutations, bienvenue à Sourdemande. Ça sent les élections à plein nez, et ça depuis quelques mois au Québec. La CAQ est en avance dans à peu près tous les sondages et le règne des libéraux pourrait prendre fin en octobre. Paul Arcand pose les questions que vous vous posez aussi au premier ministre Philippe Couillard.
Monsieur Couillard, ma première question va sans doute vous paraître un peu bizarre. On est en campagne électorale, là, si on veut, Conseil national, congrès des partis d'opposition.
Et notre conseil général samedi prochain.
Bon, mais depuis, avec une date fixe, on sait qu'on est en campagne électorale. Avez-vous vraiment le goût d'être encore premier ministre du Québec?
Je comprends, j'ai le goût. Avec tout ce qu'on a réussi à accomplir en 4 ans, on voit le chemin pour continuer à amener ça plus loin. Non seulement on a tenu notre engagement, mais on a changé le Québec. J'entends parler de changement là, ces jours-ci. On a vraiment changé le Québec depuis 4 ans. Il faut pousser ce changement-là encore plus loin.
Je vous pose cette question-là parce que j'entends des gens, puis pas de l'opposition, là, des gens dans le parti, des militants qui doutent, qui sont pas convaincus, qui ont entendu votre femme dire « j'aimerais bien ça qu'il se représente pas » ou en tout cas que « j'aimerais mieux qu'il reste à la maison ».
Je pense qu'on devrait laisser nos épouses en dehors de tout ça. Là. Moi, je veux rester en politique. Je veux rester au gouvernement. Je veux former un autre gouvernement majoritaire parce qu'on a amené le Québec sur la bonne voie. Le Québec a jamais été aussi bien qu'il va maintenant. Disons-le, là. Il faut continuer dans la même direction, mais surtout pousser plus loin le changement. Et c'est ce que je vais faire.
OK. Mais donc, il n'y a jamais été, pour vous, question de remettre en question, justement, un retour, un deuxième mandat?
Absolument pas. J'ai toujours considéré que ce que j'entreprenais en 2014 nécessiterait 2 mandats pour être accompli.
Si tout va si bien, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas en avance dans les sondages.
Ben, il faut continuer à le redire, puis moi, je me donne la responsabilité à moi. Je blâme personne d'autre, là. Regardez, quand je parle de changement, le Québec libéré des déficits, c'était tout un changement. Qui se paye des financements moins chers que l'Ontario, c'est tout un changement. Les municipalités avec le gouvernement, c'est tout un changement. 1 million de plus de personnes qui ont accès à un médecin de famille, c'est
pourquoi,
tout un changement.
Pourquoi les Québécois n'ont pas l'air à vous suivre là-dessus? Pourquoi les Québécois veulent du changement dans tous les sondages?
On va continuer à expliquer à quel point le Québec a changé depuis 2014. Vous savez, il n'y a personne qui nous écoute ici, ce matin, qui a connu une époque où le Québec se finançait à des taux plus avantageux que l'Ontario. Il y a une raison pour ça, c'est la confiance. Puis la confiance envers le Québec, c'est tout un changement, croyez-moi.
OK. Vous avez sans doute vu le sondage en fin de semaine dans la presse sur la morosité des Québécois, oui. La cote des politiciens à 18 % sur l'espèce de besoin de changement, de dire que ça fait 30 ans qu'on a les mêmes affaires. Là. Ça parle, ça. Les Québécois sont critiques. Les Québécois souffrent un peu d'écœurantie de la classe politique en général.
J'entends très bien ça. Moi, c'est mon deuxième mandat comme premier ministre que je demande. Je suis pas là depuis un siècle. Là. Et je demande aux Québécois de nous faire confiance parce que leur confiance a été justifiée en 2014. On est vraiment à un endroit aujourd'hui pour le Québec qui est nettement mieux. Ce matin, là, on a commencé la journée avec une commande de 60 avions C-Series, là, 30 fermes, 30 options. Pour le monde de Mirabel qui nous écoute ce matin, c'est toute une bonne nouvelle.
OK, mais vous sentez pas que les gens sont tannés du Parti libéral?
Je pense que les gens ont un discours de plus en plus cynique par rapport à la politique. Ce qu'il faut pour ça, c'est quoi? C'est des gens qui sont sincères, qui expliquent leurs valeurs. Moi, je suis en politique pour incarner des valeurs et je change pas toutes les 2 semaines. Ça aussi, les gens sont tannés de ça, je crois. Voir quelqu'un abandonner des annonces ou des politiques parce que les sondages sont ceci ou cela, c'est pas mon cas, c'est pas notre cas.
OK, mais je vous donne un exemple de ce que je pense indispose de plus en plus les gens. Mm-hmm. C'est la politique. Je l'ai dit, bassement partisane souvent, des attaques personnelles. Oui. Puis là, je ne vis pas que vous, là, mais hein, quand on veut parler d'immigration, c'est comme si on n'avait pas le droit d'en discuter. On a le droit de parler du niveau d'immigration.
Tout à fait.
Mais pourquoi quand on l'opposition fait ça, vous avez dit à un moment donné, c'est soufflé comme sur les braises de l'intolérance.
Non, c'est pas quand on parle du nombre d'immigrants. C'est pas ça qui m'indispose. C'est un débat qu'on a chaque année au Québec, les seuils d'immigration. Puis nous, on le présente sur un angle économique. Mais quand on présente de façon continue, subtile ou pas, l'étranger ou le nouvel arrivant comme un problème, comme une sorte de corps étranger qu'il faut corriger ou qu'il faut maintenir ou qu'il faut mettre à l'écart, ça, c'est un discours qui n'est pas bon pour le Québec, pour notre société. Mais qu'on discute d'immigration, formidable. Qu'on discute d'intégration, de francisation, c'est normal. Nous, on dit qu'il faut garder les seuils d'immigration comme ils sont, parce que si on baisse de 10 000, c'est 6 000 jobs de moins qu'on n'occupe pas par année. C'est majeur pour l'économie du Québec.
Bon, j'ai fait ma petite liste quand même. Puis
oui, allons-y.
Non, mais dans le sens où je pense que les gens... Une des raisons qui explique cette morosité et ce scepticisme des citoyens, par exemple... Mm-hmm. Je vais vous faire entendre une pub du Parti libéral 2003 avec Jean Charest.
Oui, oui.
2003, là, ça fait quand même un bail. Voici ce que ça donne.
Donc, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Penses-tu que c'est pour bientôt mon opération?
Je ne sais pas, maman.
Jamais j'aurais imaginé qu'on aurait un système de santé où les malades sont moins importants que les pièces. L'équipe libérale a un plan de croissance pour remettre le Québec sur la bonne voie.
Ça fait 15 ans.
Et je crois ça entièrement encore. Okay, je suis très à l'aise avec ça.
La VG du Québec dit qu'on a un problème de chirurgie, d'attente en chirurgie, de priorité en chirurgie.
Mais la réalité aussi, puis il faut toujours améliorer les choses en passant. Dans 20 ans, M. Arcand, nos successeurs respectifs vont être ici à débattre des enjeux du système de santé.
Non, mais c'est parce qu'il y a 15 ans, c'était pas acceptable, oui, puis encore des gens qui dépassent le temps attendu.
Aujourd'hui, 93 % des gens sont opérés dans les délais. J'aurais jamais cru ça possible, moi, en 2003. Plus d'un million de personnes de plus ont accès à un médecin de famille. J'aurais jamais cru pour ça possible. On l'a fait avec détermination. Ça a pris du courage. Il a fallu brasser pas mal les choses. M. Barrette, les gens, parfois, le contestent par rapport à son ton ou ses manières, mais il a brassé les choses. Il a brassé le système. Puis ça a changé profondément. Il faut que ça change encore.
Si vous êtes réélu, est-ce qu'il est encore votre ministre de la Santé?
Je ne forme pas de conseil des ministres pendant une campagne électorale. On va d'abord.
Ben non, mais si on fait d'excellentes réformes, puis j'imagine qu'ils vont vouloir les compléter.
On va former le conseil des ministres après l'élection, M. Arcand.
Donc, c'est pas sûr qu'il soit renouvelé en santé.
On va former le conseil des ministres après l'élection. Mais on a quelqu'un de très fort actuellement. Je voudrais que les gens apprécient, outre les éléments, je dirais, périphériques, là, sur la façon dont il fait les choses, son ton, etc., les progrès qu'il y a eu dans le système de santé. Est-ce que tout est parfait? Bien sûr, loin de là. Loin de là. Mais on est sur la bonne voie.
Non, mais.
Regardez ce matin. Excusez-moi, M. Arcand. Je peux. Mm-hmm. Je vous entendais tantôt parler avec M. Drainville du 90 minutes par rapport à 2h20 pour voir le médecin. Ce problème-là, c'est qui? C'est du monde qui sont à l'urgence, qui normalement devrait être ailleurs qu'à l'urgence.
On n'est pas de leur faute, hein, s'ils sont
non,
pas.
Non, je sais. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'offrir un autre endroit. On est rendu à 42 super cliniques, 84 heures par semaine. Ça marche, ça. Puis il faut en augmenter le nombre, je crois.
M. Couillard, je comprends ce que vous dites, là. Ouais. Mais dans les faits, là, chaque fin de semaine, des Québécois se heurtent à des portes fermées, se heurtent encore à des cliniques qui prennent des patients à 7 heures, puis à 7 heures et 5, c'est plein.
Pas dans les super cliniques. Non, mais je vous le dis, là. C'est 12 heures par jour, 7 jours semaine. Ils signent un contrat pour ça.
Et okay, on voit déjà. Moi, j'ai besoin de points de suture. C'est-tu normal? Si j'ai pas d'autre place à aller, j'ai deux choix actuellement, souvent la fin de semaine. Ou je paye au privé, ou encore je vais à l'urgence, puis j'attends 11 heures.
Bon, des points de suture, c'est pas toutes les cliniques sont équipées pour vous en faire. Dépendant des endroits, ça se peut que vous ayez à l'hôpital.
C'est
mais
normal d'attendre 11 heures.
Mais ils vous laisseront pas saigner à la salle d'urgence, M. Arcand. Vous allez être traité rapidement. Les gens qui sont, vous l'avez dit vous-même.
Monsieur, plutôt, je m'excuse là-dessus. Là, je parle d'enfants. Moi, j'ai des cas documentés d'enfants dont les parents, je parle pas d'un enfant qui est sanguignolant. Je parle d'un enfant. On va faire un pansement, puis le médecin n'est pas disponible parce que d'autres choses, ça prend 11 heures.
C'est
11
exactement
heures.
Pour ça que j'avais pris l'engagement des super cliniques. Je l'ai dit aux gens lors du débat des chefs. Vous travaillez tous les deux, vous arrivez à la maison, vous avez un enfant qui fait de la température, qui a mal à l'oreille, prend pas la tête à Papineau pour savoir c'est quoi qui marche pas. C'est pas normal d'aller s'asseoir des heures à l'urgence pour ça. On va créer des cliniques où vous pourrez aller tous les jours de la semaine, 7 jours par semaine, 12 heures par jour. On fera vos radiographies, vos examens de sang. Vous aurez votre réponse. Vous ne serez pas allé vous asseoir à l'urgence. C'est en cours. On est en train de le réaliser. On est rendu à 42. Le 50, c'est pas là. Mais je vous dis tout de suite, M. Arcand, je pense que ça prend plus que 50 pour continuer à avoir un bon impact.
OK. Mais vous comprenez pourquoi bien des gens qui vous écoutent ce matin sont sceptiques parce que c'est pas ceux qui vivent. Ils attendent un médecin, là, 200, 300 jours à attendre selon le guichet.
Oui.
Puis ils se disent, OK, moi j'attends, je vais à l'urgence. Il y a plus de médecins au Québec qu'avant.
Mm-hmm.
Je pense qu'on est une des provinces où il y en a le plus par capita.
C'est vrai.
OK. Nos médecins n'ont jamais été aussi bien payés.
Oui.
Non, mais actuellement, oui, là, c'est parmi les mieux au Canada.
C'est vrai.
OK. Pourquoi c'est pas un meilleur service?
Parce qu'il faut continuer à mieux les organiser, à mieux les faire pratiquer, à faire les bons choix. C'est pas tout de leur faute. Il faut qu'on leur offre les conditions également. Puis ces cliniques-là, c'est une bonne réponse à ça.
Fait que le système est mal organisé.
Vous me dites, tous les systèmes de santé universels à bailleur unique doivent toujours s'améliorer mieux. C'est pas simple comme système, puis on l'a voulu comme ça, puis on a besoin comme ça. Mais je vais revenir à l'introduction de votre question. Moi, régulièrement, je rencontre des gens, soit mes collègues me le disent, ou je rencontre des gens dans la rue, ou dans mes tournées, qui viennent de trouver un médecin de famille. Monsieur Couillard, ça marche votre affaire, je viens d'avoir un appel, j'ai un médecin. Je rencontre également des gens qui sont allés à la super clinique, plutôt qu'à l'urgence, puis avoir su, je serais allé là avant. Ça, est-ce que c'est parfait? Non. Je suis pas en train de dire que tout va bien, mais on fait des progrès continus, il faut continuer dans la même direction.
Je reste avec la vérificatrice générale. Mm-hmm. Échec de la francisation des immigrants. C'est pas qu'on est contre les immigrants. Ce qu'elle constate, là, c'est que le programme marche pas.
C'est donc pour ça qu'il faut changer les choses. Non seulement dans le financement. Vous savez qu'on vient de mettre près de 200 millions de dollars pour l'intégration et la francisation des immigrants, mais la façon dont on les francise. Je l'ai dit récemment. Moi, je le vois chez nous, là. On a de plus en plus d'immigrants qui viennent parce qu'on a besoin d'employés, de travailleurs. Mettre une personne dans une salle de classe. Je parle pas des enfants. Les enfants, ils apprennent très facilement le français.
Je parle des adultes.
Mais les adultes. Le mettre dans une salle de classe 6 mois à l'écart de la société. Soyons pas surpris si en sortant de ça, malgré tout le bon vouloir des personnes qui les forment, ils sont pas très bons en français. Ce qu'il faut faire maintenant, maintenant, je l'ai vu à Québec récemment, dans l'entreprise où on était pour la stratégie de la main-d'œuvre, c'est faire la francisation dans le milieu de travail. Dire à la personne, OK, on te trouve une job maintenant, tu rentres travailler la semaine prochaine à tel endroit, puis il y a quelqu'un qui va venir, toi puis tes amis, parce qu'en général, ils sont plusieurs travailleurs.
Mais expliquez aux gens comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça avant.
C'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on fait une bonne chose, les gens demandent
on a 50 000 immigrants, grosso modo, qui rentrent chaque année, et plus des réfugiés, un pourcentage d'entre eux qui ont besoin d'être francisés. Comment ça se fait qu'on n'a pas compris que ça passait par le milieu du travail avant? Devant un taux d'échec qu'on a sans doute dû voir venir.
Je rencontre plein d'immigrants. Regardez, l'autre jour, j'étais à Momentum, une compagnie d'informatique à Québec. 75% de la main-d'œuvre, c'est immigrante de tous les pays. Tout ce monde-là parlait français, là. C'est pas vrai que c'est un échec radical, la francisation des immigrants.
Mais là, c'est pour moi, là. C'est la vérificatrice.
Ce que je vous dis, c'est qu'il faut accentuer ce virage vers la francisation en milieu de travail. On a les ressources pour le faire. Je pense que c'est la bonne chose. C'est pas tous les pays qui font ça comme ça en passant.
Non.
Je pense que c'est la façon de le faire. Parce que je l'ai vu moi-même, là. Si on prend un adulte, qui arrive d'un autre pays, qui se retrouve dans un endroit très, très différent de son pays d'origine, puis il y a très peu de contacts sociaux, puis qu'on le met dans une salle de classe, ça va être difficile. Je dis pas que c'est impossible, ça va être difficile. Par contre, je répète, je l'ai vu aussi, les petits-enfants qui arrivent, qui ne parlent pas un mot de français, ça prend même pas quelques mois dans nos écoles, puis ils parlent français. Je dirais pas comme vous puis moi, mais presque.
Non, mais ça, puis la deuxième génération,
c'est pas de problème. C'est non. La première génération sur laquelle il faut travailler, et notamment dans le milieu de travail. Il faut également mieux sélectionner les immigrants pour qu'ils aient le goût de s'installer en région. Vous savez que maintenant, les candidats à l'immigration vont remplir une lettre d'intention. On va pouvoir comparer leur profil, leur désir avec ce qui existe comme besoin dans les régions et dans les différents milieux de travail, que ce soit à Montréal ou chez nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis la réalité, M. Arcand, maintenant, c'est que j'entends parler de pénurie de main-d'œuvre partout. J'étais aux Îles-de-la-Madeleine, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Qui aurait cru ça possible il y a 10 ans? On est rendu là. On n'est plus dans le Québec du chômage.
Non, mais dans un Québec qui est vieillissant, qui a un taux de renouvellement de population pas très élevé.
Et qui est en croissance économique, et qui a besoin de main-d'œuvre. Donc, cette main-d'œuvre-là, elle peut pas venir juste de notre monde.
Je suis d'accord avec vous, là. Mais les gens, ce qu'ils voient, là, puis malgré vous me dites que tout s'est amélioré, là, les gens vieillissent, regardent l'état des centres de soins de longue durée. Il y a personne qui va aller finir ces jours-là, là. Parce que les conditions, il y a un roulement de personnel. Vous avez de la misère à trouver des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. L'autre jour, il y a eu une journée porte ouverte. Il n'y a personne qui était intéressé. On peut pas dire que ça va très bien.
Vous venez d'illustrer, M. Arcand, que la pénurie de main-d'œuvre touche tous les secteurs.
Exact.
Y compris le secteur de la santé et particulièrement le secteur des préposés. Et c'est vrai. C'est un métier très dur, là. Ceux qui nous écoutent ce matin, là, bravo, parce que je suis pas sûr que beaucoup d'autres monde qui sont à l'écoute feraient ce travail-là. C'est un métier qui est très difficile, très exigeant. Maintenant, dans les CHSLD, vous savez qu'on a augmenté les budgets pour les soins d'hygiène des gens. Pour la nourriture également, pour que la nourriture soit de meilleure qualité. Il y a des CHSLD, encore une fois, où les soins sont de très grande qualité. Ce qu'on veut, c'est que ce soit la même chose partout, mais les moyens ont été mis là. Plus de moyens en soins à domicile. On est rendu à 850 millions en soins à domicile.
OK, mais prenons un autre volet majeur qui est l'éducation.
Oui, allons-y.
OK. J'ai eu bien des discussions avec vos ministres de l'éducation. Là, et vous avez pas coupé dans le budget de l'éducation. On peut dire que vous avez réduit...
L'accélération pendant 2 ans.
Hein? Ça s'est traduit par des coupures de services, par exemple, sur le terrain. Ça s'est traduit par des enfants qui n'ont pas eu accès à des professionnels. Ça s'est traduit par des classes où on n'avait pas toutes les ressources ou encore des classes qu'on a tardé à rénover. Ça a eu un effet sur les enfants du Québec. Oui,
si on n'avait pas fait ça, on serait encore dans la spirale des déficits, de l'endettement, ça serait pire. Maintenant, on est en train d'engager 8000 personnes dans nos écoles, puis on a déjà des milliers.
Mais est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu un effet négatif sur les enfants?
Il y a eu un ralentissement.
Ça s'est traduit par un effet négatif.
Les choix ont été faits par les commissions scolaires, M. Arcand. Il est possible qu'il y ait eu des services qui aient été diminués pendant moins de 2 ans. Maintenant, il n'y a personne qui a été mis à la porte, je regrette. Les gens, des fois, me disent, vous engagez le monde que vous avez coupé. Non. C'est du monde nouveau qu'on engage dans nos écoles, des enseignants nouveaux, des orthopédagogues, des orthophonistes. Mais si on n'avait pas rétabli la santé des finances publiques, on aurait été tout le temps dans une instabilité catastrophique de financement pour l'éducation. Là, on est capable de leur dire pour les prochaines années, à moins qu'il y ait une récession mondiale, là, pour les prochaines années, on vous garantit l'augmentation annuelle minimalement de 3,5%. Ils peuvent faire des plans, continuer à engager du monde. On prévoit avec les cégeps et universités plus de 10 000 personnes nouvelles dans notre système d'éducation.
Okay. Le Parti québécois propose, appelons ça une amorce là, en fin de semaine, de gratuité scolaire. Êtes-vous d'accord avec ça, vous?
Moi, je pense qu'au niveau universitaire, il faut être prudent avec ça parce que, comme je vous entendais discuter avec M. Drainville tantôt, il faut rappeler tout le temps à la population qu'on a de loin le système de prêt et de bourse le plus généreux au Canada. Ce qui fait que dans la réalité des faits, les gens qui ont des plus faibles revenus payent beaucoup moins au net pour leur scolarité. Maintenant, tous les pays qui ont la gratuité universitaire, disons, ont en même temps une limitation d'accès. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, si vous faites la gratuité universitaire sans limite d'accès, ça s'écroule. Donc, tous les pays qui le font ont une sorte de sélection, soit à l'entrée, soit au bout de la première année, où tout le monde ne peut pas aller à l'université. Au Québec, on a un très bon accès aux études universitaires, y compris dans nos régions. C'est une grande chose. On est de loin les frais de scolarité les plus bas au Canada. Je pense qu'il y a d'autres priorités que ça.
OK. Donc, pour vous, la gratuité, là, c'est un concept que vous mettez de côté.
Ce n'est pas un choix actuel, compte tenu du fait qu'avec les prêts bourses, les gens à plus faible revenu paient au net très peu.
Et l'échange n'est pas terminé. La suite de cet entretien est dans un instant. Et vous verrez, le premier ministre est convaincu de gagner les élections.